Vous écoutez Radio Notre-Dame.
Dans un instant.
Dans un instant.
Écoute dans la nuit.
Pour prendre le temps de réfléchir, Pierre Moracchini vous propose chaque samedi à 11h Matière à penser. Matière à penser, c'est une personnalité, une œuvre, un thème de réflexion autour de Pierre Moracchini. Matière à penser, tous les samedis à 11h sur Radio Notre-Dame.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien ? Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers ? Hop là, en voilà un, et puis un autre.
Ne laissez plus s'envoler votre argent.
Et puis un autre.
Avec la Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort.
Appelez vite au 01 42 11 03 03. 42 11 03 03.
Canal Sat, regardons mieux.
Je suis très exigeant. Pour les vacances, je veux vivre un maximum de sensations.
Chérie, tu viens ? On va ramasser des coquillages.
Bon, heureusement sur Canal Sat, l'été va être extrême.
Cet été sur Canal Sat, le mois des requins sur Discovery Channel, la Bundesliga sur Sport Plus, le dernier Batman de Dark Knight Rises sur OCS Max. Et jusqu'au 31 juillet, pendant le grand shopping, profitez d'une offre exceptionnelle. Canal Sat à moins 40% pendant un an. Appelez le 3910, 23 centimes la minute, offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement. Plus d'informations sur les offres canal.fr.
L'été sur Radio Notre-Dame.
Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Pascal Parinet, psychothérapeute et formateur en relations humaines. Avec Marie-Laurence, son épouse, il nous propose, à travers des parcours qui sont adaptés aux situations de chacun, diverses situations, et ce, au sein de l'Institut de formation Psychrétien, une aide thérapeutique qui permet de se réconcilier avec soi-même dans toutes les dimensions de son humanité et avec les autres, dans une perspective d'être plus disponible à l'accueil de l'action de Dieu dans notre vie. Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, notre sujet de réflexion et de partage ce soir, la parentalité ou comment être parent. Eh bien, nous allons en parler ce soir.
Voilà, c'est un peu le moment avec les vacances.
D'être parent ?
Alors non, on est parents toute l'année, toute la vie même.
Mais alors, qu'est-ce qui... Mais, pendant les vacances,
bon, c'est le temps des vacances, on est plus proche des enfants,
voilà,
on est plus disponible, on a plus de temps. Donc c'est le moment un peu d'en parler.
Voilà, pour justement bénéficier un peu de cette des meilleures relations qu'on peut avoir.
Voilà, bénéficier des meilleures relations et puis pour peut-être tous ceux qui vont faire des enfants pendant les vacances.
Ah ben aussi. Voilà, c'est ça. C'est un moment favorable aussi. Bon, ceux qui vont faire des enfants vont devenir parents.
Voilà.
Et devenir parent, ça s'apprend.
Alors, en tout cas, c'est tout un processus.
Ah, c'est un processus.
C'est un peu la vie qui nous l'apprend. Hein. Oui. Il n'y a pas vraiment de cours, mais c'est en train de se développer, les aides aux parents, les groupes aux parents. Mais c'est d'abord un processus qui transforme toute la personne, finalement, toute son identité. Mmh. Ben, on passe d'une femme à une mère, tout oui. en restant femme,
oui.
d'un homme à un père, bien. Tout en restant homme. Voilà, donc il y a toute une transformation au niveau de l'identité de la personne, et c'est tout ce processus-là qu'on va regarder un peu.
Intéressant, c'est la vie, ça se fait, hein, ça se fait.
Et le plus souvent, naturellement, sans même qu'on s'en rende vraiment compte.
Ben voilà. Alors, généralement, ça se passe tout naturellement, oui.
Voilà, naturellement, on ne s'en rend pas trop compte. On sent bien que...
Il y a un changement,
une
oui.
Une prise de conscience qu'on devient parent. Mmh. Mais globalement, pour beaucoup de personnes, ça se fait naturellement. Mmh. Il y a tout le temps de la grossesse aussi qui est un peu là pour se faire à l'idée, s'apprivoiser son identité de parent.
On a 9 mois pour cela.
Voilà.
Donc, ça laisse du temps.
Mais en même temps, il y a beaucoup de couples qui ont des difficultés à concevoir un enfant. Je parle alors des difficultés physiologiques, mais aussi parfois des difficultés psychologiques.
À devenir, à accepter un enfant.
Oui, à concevoir.
À concevoir l'idée de l'enfant.
Alors l'idée, souvent, il y a le désir ou
oui.
le projet d'enfant,
oui,
mais il y a des choses qui ne maîtrisent pas, qui font qu'ils n'arrivent pas à avoir un enfant. Alors quand il y a des causes physiologiques identifiées, c'est clair.
Oui.
Quand il n'y a pas de cause identifiée, dans la majorité des cas, ce sont des causes psychologiques inconscientes.
Inconscientes, voilà, oui. Hein?
Voilà, et puis y a d'autres parents qui, eux, ont des enfants, mais ont du mal à assumer ou à remplir leur rôle parental.
Oui.
Donc, en fait, ils ont les enfants, mais ils ont des difficultés à devenir parents, à être parents, en tout cas tel que c'est conçu dans la société.
Mmh. Il reste un peu... parce qu'aujourd'hui, on est dans une société... adolescente, comme on dit.
Voilà.
Hein,
voilà.
Donc,
Alors, ils peuvent avoir du mal à grandir, en quelque sorte, et vouloir avoir des difficultés à assumer de prendre soin d'un enfant, de s'en occuper, de l'éduquer.
Mm-hmm.
Voilà. Et puis parfois, il peut y avoir des problèmes autres.
Oui.
Psychologiques ou autres, qui font que les personnes ne sont pas forcément prêtes à pouvoir assumer ça. Ou l'immaturité, ça peut arriver aussi. Quelquefois, de l'immaturité.
Alors
voilà, mais au-delà de ça, oui.
Même quand tout va bien.
Quand tout va bien, de plus en plus de couples se posent la question de comment faire, comment être un bon parent.
Voilà, là c'est un plus, c'est pas une difficulté, voilà. C'est pour vraiment le vivre pleinement.
Pour le vivre pleinement, pour offrir à leur enfant
le meilleur pour grandir.
Qui pense et qu'ils espèrent pour lui. Il y a un peu tous ces cas-là.
Alors, comment nous allons procéder peut-être?
On va d'abord définir quelques notions en lien avec le fait d'être parent. Et puis, surtout, on va regarder le processus psychologique de la parentalité. Autrement dit, comment va se former en un être humain, un homme, une femme, son identité de mère, son identité de père. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment ça se passe et qu'est-ce que ça recouvre?
Donc on va développer un peu tout cela.
On va développer tout ça. On va partir de l'enfant. On va partir de l'enfant pour aller vers le parent. Donc comment, depuis l'enfance, tout ça, ça se prépare, ça se mature au fur et à mesure. Et puis, pour les parents qui écoutent, ils peuvent le voir en miroir aussi, c'est-à-dire comment permettre, offrir à leur enfant les conditions pour que il puisse lui-même un jour devenir parent.
Que la transmission se fasse bien.
Voilà.
Alors, peut-être d'abord quelques, on va voir quelques définitions peut-être de, autour de ces, ce processus.
Oui, parce que d'abord,
vous parliez de parentalité.
Voilà, c'est un mot qui est rentré dans le langage courant et qui a plusieurs sens d'ailleurs. Souvent, on l'utilise dans différents domaines. Alors, dans le domaine biologique, dans le domaine psychologique, dans le domaine social, dans le domaine juridique aussi, on parle de plus en plus de parentalité.
Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que ce terme?
Voilà, c'est un terme qui est apparu dans les années 60. Hein, c'est un psychanalyste qui s'appelait Racamier. Qui a utilisé ce terme pour désigner le processus de maturation psychique. Donc tout le processus qui se produit chez un homme, chez une femme, quand il ou elle devient parent. Voilà, donc la parentalité, même si aujourd'hui c'est généralisé, à l'origine ça concerne le processus psychologique qui se déroule à l'intérieur de l'adulte.
Voilà, une sorte de la transformation, la maturation.
Voilà, le changement d'identité qui va se produire pour que la personne puisse devenir et assumer son rôle de parent.
Voilà, c'est intéressant de voir, parce que ça se fait sans trop qu'on y réfléchisse souvent.
Oui, on n'y réfléchit pas. Et en même temps, quand on écoute les couples, souvent ils vont penser à eux quand ils étaient enfants, comment étaient leurs parents.
Ils vont revivre quelque chose de leur
enfance. Enfin, il y a tout un tas de souvenirs qui vont revenir. Et on va,
ça fait une thérapie un peu, ça peut faire ces souvenirs.
Alors une thérapie, pas vraiment, parce que la thérapie regarde les processus inconscients et comment corriger ce qui fonctionne mal dans les processus. Mais en tout cas, ça fait une transformation qui peut parfois aller vers un processus d'amélioration comme la thérapie, mais c'est pas vraiment de la thérapie, ça se fait naturellement.
C'est un processus de maturation naturelle. Alors, donc, ça c'est la parentalité. Bon, être parent, c'est autre chose. Qu'est-ce que ça recouvre?
Alors, être parent, c'est d'abord, pour beaucoup, un statut social, et une identité. En tout cas, une nouvelle identité. Alors, bien sûr, il y a toute la joie autour, il y a... Voilà. Mais dans l'esprit des gens, c'est d'abord, avant tout, d'acquérir une nouvelle identité, d'être parent. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes associent le fait d'être parent à une sorte de maturité. Ils considèrent qu'ils sont matures en devenant parents, ce qui n'est pas forcément, les deux ne sont pas liés. On peut être mature sans être parent
et immature en étant parent.
Mais dans beaucoup d'esprits des personnes, c'est un signe qu'il y a une identité adulte, une identité un peu spéciale, de signe de maturité dans le fait d'être parent.
Et c'est vrai que il faut assumer une charge nouvelle, cette maturité est nécessaire. Mais est-ce que c'est vrai évidemment pour le premier enfant, parce que là il y a une transformation dans l'identité, mais est-ce que après au deuxième enfant, est-ce qu'il y a encore, ou est-ce que ça se Ça, c'est comment, il y a une transformation plus qui s'affirme ou...
Alors, le processus est beaucoup plus sensible, significatif, notamment au niveau de l'identité. Oui. C'est le premier enfant qui donne l'identité d'être parent et qui donne le statut social. Mais on verra que le processus, même aux autres enfants, se poursuit alors d'une façon plus souple parce qu'il s'est déjà déroulé au premier enfant, mais il y a quand même...
Ça continue, la maturation qui continue.
Parce que ce processus, il y a l'aspect identitaire, mais aussi il y a tout un aspect d'accueil de l'enfant.
Et ça
ça se fait à chaque enfant.
Bien sûr. Donc, c'est très, très intéressant de voir cette importance d'être parent, puisqu'il se joue là quelque chose dans le processus de maturation.
En tout cas dans un processus psychique qui normalement est plus ou moins en lien avec une certaine maturité, mais un processus qui est important pour pouvoir accueillir un enfant.
Alors,
être parent, c'est aussi, mais ça c'est peut-être beaucoup plus dans l'aspect social, tout un ensemble de droits. Mais aussi de devoirs, déjà le devoir d'éduquer, donc qui implique des responsabilités morales.
Ça fait grandir, oui.
On doit éduquer, on doit prendre soin de l'enfant, l'éduquer, l'accompagner jusqu'à sa maturité. Et puis aussi des droits et des devoirs juridiques. Donc l'ego, qui rejoignent un peu les droits et devoirs moraux, d'ailleurs, d'éducation et autres. Et ça, autant de la part de la mère que du père.
Alors voilà un autre terme, après parentalité, pas être parent. Qu'est-ce qu'il y a encore comme terme?
Alors, un terme voisin, c'est la parenté. Alors la parenté, c'est... en quelque sorte, l'inscription d'une personne dans une généalogie. Et donc, ça va recouvrir tous les liens transgénérationnels d'une génération à une autre, ou d'alliance aussi, donc les liens horizontaux dans une famille.
Les mariages.
Les mariages, les fratries, les cousins, voilà, tout ça, ça constitue la parenté, qui peut être singulière dans le sens où il peut y avoir des aspects particuliers. Par exemple, dans le cas des enfants adoptés, ils ont une double parenté. Deux couples parentaux, deux familles, et même trois familles si on compte quatre. Si on compte la famille du père biologique, de la mère biologique, du père adoptif.
Les grands-parents, au niveau des grands-parents, ça se multiplie.
Donc tout ça, ça constitue leur parenté, donc qui est quand même assez singulière. Il y a aussi les enfants nés d'inceste qui vont avoir une parenté singulière. Les enfants nés d'un adultère aussi, enfin... Donc, on voit que la parenté, ce sont tous les liens générationnels et de liens familiaux pour une personne.
Un grand merci, Pascal Parinet. Nous allons poursuivre dans quelques instants. La parentalité ou comment être parent, c'est le thème ce soir. Et vous êtes invité, bien sûr, à nous rejoindre au 01 56 2 x 44 00. Nous écoutons tout de suite Alain Souchon. Allô maman, bobo.
Radio Notre-Dame.
Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. dans ma tête, y a pas d'affaire. J'donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. J'suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, j'suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Traîne fumée, j'me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du music-hall. J'suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, j'suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Moi je voulais les sorties de port à la voile. La nuit parée les étoiles. Moi les chevaux, le revolver et le chapeau clown. La belle Peggy du saloon. J'suis mal en homme dur et mal en petit cœur. Peut-être un petit peu trop rêveur. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, j'suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. J'marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y'a pas d'affaire. J'donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y'a rien à faire. J'suis mal en campagne, j'suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, j'suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, j'suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo.
Allô maman, bobo, c'était Alain Souchon qui est resté très enfant, hein, on disait.
Oui, antenne. Il a gardé son âme d'enfant.
Oui, 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 tout à fait. Alors, donc, ce soir, eh bien, nous parlons de pas d'être parent, pas la parentalité ou comment être parent. Alors, vous nous disiez que la parentalité, c'est donc le processus de maturation psychique qui se déroule quand une femme, un homme deviennent parents.
Oui. Et donc, ça comprend tout un tas de remaniements identitaires, hein, parce qu'on acquiert une nouvelle identité. Et relationnel aussi, de la personnalité. C'est-à-dire que c'est devenir parent, c'est une transformation de la personnalité de la personne qui devient parent. Mais
ça, alors, ça se fait à quel moment ?
Ben, en fait, la parentalité, elle s'inscrit dans l'enfance, déjà dans l'enfance.
Oui.
Le processus, hein. On a dit la parentalité, c'est un processus.
Oui,
donc
oui.
L'enfant n'est pas encore parent, mais déjà le processus démarre dans l'enfance. Il va s'actualiser au moment de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte.
Est-ce que, par exemple, là je vous coupe, les enfants qui jouent au papa, à la maman,
voilà.
C'est un peu, justement, ils sont dedans.
Ils sont dans le processus. Alors, on verra, on va en parler un peu après.
Oui.
Ils sont dans une identification aux parents, mais oui. Déjà, à partir de cette identification-là,
ils enclenchent, c'est ça.
Ils démarrent le processus qui leur permettra un jour de devenir parents.
Et tout ça dans un jeu, en jouant. Ben,
et
l'enfant
tout ça
joue.
En jouant, oui. Ouais.
L'enfant, c'est dans le jeu, hein, mais on voit combien c'est important, même à ce niveau-là, voilà. la parentalité qui s'inscrit dans l'enfance déjà, qui s'actualise, vous dites, au moment de l'adolescence.
Alors, qui s'actualise au moment de l'adolescence, parce que l'adolescence est le dernier stade avant l'âge adulte. Mm-hmm. Donc, c'est là où la personnalité va continuer à se transformer pour devenir adulte.
Oui.
Que le jeune acquiert une sexualité adulte aussi. Tout ce qui va lui permettre d'être parent se met en place au moment de l'adolescence, même si ça n'arrive parfois que bien des années après.
Oui,
mais
déjà, oui,
voilà, ça se met en place. Et puis, ça, c'est l'aspect orienté vers le futur. Mais il y a aussi l'adolescence, c'est un moment où se rejoue tout ce qui s'est passé comme processus psychique dans l'enfance. Alors, sur un autre mode, parce que le jeune a grandi, mais c'est les mêmes étapes qui se rejouent. Et donc, tous ces phénomènes de l'enfant qui joue aux parents, tout ce processus va se finaliser en quelque sorte. Alors, pas tout à fait. Est-ce qu'il se finalise vraiment quand il y aura un enfant? Mais voilà, continuer un début d'achèvement à l'adolescence.
Il peut y avoir à un moment de l'adolescence de se projeter, d'avoir ce désir par la suite de devenir, d'envisager l'avenir.
D'envisager
et donc déjà,
l'avenir,
c'est le processus continu.
Dire, j'aurai une famille avec tant d'enfants. Tout ça se joue aussi à l'adolescence.
Et donc le processus continue intérieurement, psychologiquement.
Oui, le processus continue. Il va y avoir d'autres identifications. Alors, il va y avoir le deuil des parents idéaux, une prise de conscience des parents réels, des identifications aussi à d'autres adultes. Et donc, le jeune va, comme ça, voir différents modèles parentaux, mais tout en s'identifiant. Et un jour, quand il sera prêt, il deviendra parent. En même temps, on a ce regard-là par rapport à notre société actuelle, mais avant, beaucoup d'adolescents, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui des adolescents, avant, ce n'est pas un terme très très ancien, on s'en préoccupe pas depuis très longtemps, mais il y a quelques siècles, et dans d'autres sociétés, beaucoup d'adolescents étaient parents.
Mais oui, on se mariait très jeune.
On se mariait très jeune, et aujourd'hui, y a quelques années en arrière, et peut-être faut pas si remonter si loin que ça, un lycéen pouvait être parent.
Mais ça arrive. Voilà. Hein.
Et ça arrive encore aujourd'hui.
C'est pas toujours l'idéal, mais bon. Donc ça c'était la parentalité à ce qui continue,
qui démarre dans l'enfance,
Qui est un processus qui ne finit jamais, quoi.
Voilà, alors qui quand même a une certaine un certain achèvement avec l'adolescence, mais le véritable achèvement il se produit quand il y a des enfants.
Oui, parce que là, c'est la réalité qui s'inscrit.
Ça devient réel. Et puis, à chaque enfant, il y a le processus qui se remet en jeu de façon à pouvoir accueillir l'enfant.
Donc, il y a une ouverture psychique et très profonde de toute l'identité qui...
Ah oui, c'est au niveau de la personnalité de l'individu et de son identité qui y a une transformation. Et en même temps, on a une vision un peu que, c'est normal. Mais finalement, c'est pas l'issue de ce processus, il est incertain. C'est pas garanti à 100%.
De quoi que
ce processus aille à terme
et
permette d'avoir un enfant.
Oui.
Donc c'est un processus qui se déroule, mais avec une certaine incertitude.
Donc ça c'est c'est de la parentalité. Il y a d'autres termes encore qu'on peut...
Oui, alors il y a la parentification.
Alors qu'est-ce que ça signifie, alors, la parentification? C'est pas tellement utilisé.
En fait, c'est une inversion des rôles.
Ah bon?
C'est-à-dire que finalement, c'est quand l'enfant prend le rôle de parent à l'égard de ses propres parents. Alors, ça peut être pour diverses raisons, soit parce qu'il y a une maladie et que l'enfant, très tôt, est obligé de s'occuper de ses parents.
Oui.
Et du coup, bah, il prend quelque part un rôle de parent, si les parents sont dépendants. Ça arrive aussi quand il y a une immaturité des parents et que l'enfant se sent obligé de prendre soin de ses parents. Quand il y a une fragilité psychique aussi, ça arrive assez souvent. S'il y a une fragilité psychique, ben l'enfant, il va prendre en charge ses parents ou l'un des parents. Et donc ça s'appelle la parentification. Donc c'est l'inversion des rôles entre parents-enfants. Et puis on retrouve ça aussi dans les couples, dans les liens conjugaux. Donc, où un des conjoints peut jouer le rôle
de parent
vis-à-vis de l'autre. On est aussi dans une parentification, puisque normalement, c'est le même niveau de génération.
Alors, donc, il s'agit là quand même de quelque chose qui n'est pas
C'est une distorsion des relations. Ce n'est pas une relation normale, dans le sens courant du terme. Normalement, c'est aux parents de s'occuper de l'enfant et non pas l'inverse. Et puis, dans un couple, il y a une égalité et les deux sont sur la même génération. Et il n'y en a pas un qui a joué le rôle d'un parent pour l'autre. Donc, on voit que là, c'est une relation qui fonctionne mal et qui est distordue, finalement.
Et donc, ce n'est pas sans conséquence.
Ah, ça pose des problèmes. Alors, ça va, quand c'est l'enfant qui est parentifié, ça va lui poser des problèmes dans l'avenir parce qu'il devient responsable beaucoup trop tôt. Finalement, il est amputé de son enfance et de tout son processus de croissance et il devient adulte avant l'âge. Donc, il y a un moment, ça va le rattraper. Et il aura des difficultés dans la vie. Alors, ça peut être une dépression. Peut-être qu'à un moment, il va craquer d'avoir dû toujours assumer des responsabilités qui n'étaient pas de son âge. Ça peut créer aussi des peurs ou des angoisses de devenir parent soi-même. Pour ne pas reproduire la même chose. Enfin, donc ça peut créer comme ça un certain nombre de difficultés dans la vie. Et puis quand ça se joue dans le couple, ben de la même façon, ça va créer des difficultés dans le couple parce que il n'y a plus d'égalité. En fait, il n'y a plus l'altérité. Il y en a un qui prend soin de l'autre et l'autre qui se comporte un peu en enfant.
C'est il y a un problème de grandir, enfin de difficulté, ou peut-être des étapes qui ne se sont pas faites et qui peuvent être rééquilibrées. Enfin.
Voilà, souvent, ça, c'est parce qu'il y a eu une maturité qui n'a pas été complètement achevée. Et du coup, la personne un peu immature va trouver un partenaire
qui l'aide à grandir.
Voilà, qui va pouvoir remplir le rôle de parent. Et puis, peut-être celui qui va tenir le rôle de parent va chercher un partenaire un peu enfantin. De façon à pouvoir jouer ce rôle de parent dans une relation conjugale.
Ah oui, peut-être parce qu'il n'a pas peut-être assumé lui-même quelque chose.
Voilà, en tout cas, ça joue à deux.
Oui, ça joue.
C'est,
oui.
mais ça, oui, c'est dans les couples, c'est pas un qui est oui, entièrement responsable de la relation. Mm-hmm. Quand une relation un peu distordue se met en place, c'est que ça arrange au moins au départ.
Au départ, oui, les deux.
Ça arrange les deux, et puis à un moment, bah, ça peut plus tenir. Et à ce moment-là, il y a une crise de couple.
Mais c'est là, il peut y avoir une évolution, alors, une transformation aussi.
Ça peut évoluer, bien sûr, si les personnes en prennent conscience, parfois elles se font aider, parce qu'il y a des fois, quand ça se passe en crise, en tout cas quand il y a un moment c'est plus tenable et que ça devient une crise, et c'est important de pouvoir se faire aider. Que la personne qui avait le rôle d'enfant puisse maturer, et puis que l'autre aussi arrive à lâcher son rôle de parent.
Ah. Parce qu'il peut y avoir quelque chose d'un peu fusionnel, là,
Oui, il y a une fusion complémentaire un peu. Ah, oui, c'est un peu une reproduction du modèle enfantin. Mm-hmm. Alors, avec un qui est identifié aux parents et l'autre qui est identifié à l'enfant. Mmh. Ça tient un moment dans les couples. Et puis il y a un moment, celui qui joue le parent, on a marre de tout le temps prendre les décisions, de tout le temps assumer. Et puis l'autre, on a marre d'étouffer parce que l'autre prend toutes les décisions. Mmh. Donc ça dure un certain temps. Et puis après, ça crée des difficultés. Et c'est là où il faut se faire aider.
Voilà. Donc ça, c'était la parentification. Et il y a encore d'autres termes.
Voilà, il y a un terme qu'on va un peu expliquer, parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Et puis on va encore en parler, c'est l'identification. Plusieurs fois, on a parlé d'identification de l'enfant qui s'identifiait, plutôt la fille à sa mère, le garçon à son père. En tout cas, l'enfant s'identifie aux parents. En réalité, c'est aux deux successivement. Et l'identification, c'est un processus psychologique où une personne va assimiler un aspect de l'autre. Alors, si on parle de l'enfant qui s'identifie aux parents, il va assimiler un aspect du parent, des qualités, des propriétés, des attitudes. Autrement dit, un attribut de quelqu'un d'autre. Et il va se transformer plus ou moins totalement, soit partiellement, soit beaucoup, sur ce modèle-là. Alors, on le voit par exemple souvent, on remarque que les enfants ont les mêmes attitudes ou les mêmes façons de parler qu'un des parents. Ben voilà.
C'est une identification.
C'est une identification. Il y a les ressemblances physiques, ça c'est plutôt de l'ordre génétique. Mais après, il y a toutes les attitudes, toutes les façons de parler, de s'exprimer, parfois le métier aussi.
Ça c'est l'identification. Alors, on va y revenir dans quelques instants, et puis nos auditeurs aussi pourront intervenir au 01 56 56 44 00. La parentalité ou comment être parent, c'est le thème ce soir. Et nous allons écouter tout de suite, c'est Maurice Dulac et Marianne Mille, « Dis à ton fils ».
Radio Notre-Dame.
À ton fils qu'il doit rentrer, la nuit va bientôt tomber.
Laisse-le jouer près de l'eau, le maïs est encore chaud.
Mais demain il va falloir se lever.
Je sais bien, il faut planter le café.
Dis à ton fils qu'il doit rentrer, je voudrais bien lui parler.
Je crois qu'il n'est pas encore temps, ce n'est jamais qu'un enfant.
Mais demain, il faudra bien qu'il apprenne.
Ton chemin est fait de sang et de peine.
Dis à ton fils qu'il doit rentrer, le mulet est déjà prêt.
Il a son fusil sur le dos, il t'attend près du ruisseau.
Dès demain, nous serons dans la montagne.
Je sais bien, et que Dieu vous accompagne.
Ton fils n'est pas rentré, les soldats nous l'ont tué.
Je sais qu'il n'est pas mort pour rien, nous serons libres demain.
Mais demain, il va falloir se lever.
Je sais bien, il faut planter le café.
La 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 la.
Dis à ton fils, c'était Maurice Dulac et Marianne Mille. Ce soir, eh bien, nous parlons de la parentalité ou comment être parent. Alors, on a défini plusieurs termes, mais là, on est arrivé à l'identification.
Voilà, et on disait que c'était prendre un attribut, une attitude, une part
d'une personne.
Et se l'approprier et transformer sa personnalité, l'intégrer à sa personnalité. Alors, c'est un processus très important dans l'enfance qui permet de grandir. Hein. Mm-hmm. Si on ne s'identifiait pas aux parents, ben on ne grandirait pas.
Et aux parents de même sexe?
Alors, alternativement, les deux. Hein.
On s'identifie, voilà, qu'on soit fille ou garçon. Oui.
Fille ou garçon, il peut y avoir des identifications aux parents de l'autre sexe et du même sexe, avec quand même une prépondérance sur le parent du même sexe. On va y venir après, en tout cas pour devenir parent. Et puis, après, plus tard, on peut s'identifier à d'autres modèles. On peut s'identifier, par exemple, quand on est jeune professionnel, à son patron, dont on admire certaines qualités et qu'on va essayer d'intégrer en soi.
Alors ça, c'est donc, pas sur le plan d'être parent, mais sur le plan de la personnalité en général.
Voilà, c'est un processus qui permet de grandir. Mmh,
l'identification.
Voilà, au niveau de la personnalité. Hein.
Et de quelqu'un dont on admire cette qualité-là, par exemple.
Voilà. Mais les identifications, des fois... peuvent se faire aussi sur des choses qui fonctionnent mal.
Ah oui.
Hein? On s'identifie à un aspect de la personne, donc ça peut être des aspects positifs, ça peut parfois être des aspects négatifs, hein? Surtout quand c'est vis-à-vis des parents et de l'enfance.
C'est inconscient.
C'est complètement inconscient. Voilà. Après, adulte, en général, on s'identifie plutôt aux aspects positifs d'une personne.
Oui, parce qu'on est plus conscient. Donc
voilà, parce qu'on est conscient et d'une personne qu'on admire en général. Mm-hmm. Voilà, mais l'enfant admire ses parents d'une façon
inconditionnellement.
Naturelle. Inconditionnellement.
Mm-hmm. Alors, donc voilà des termes différents hein, pour...
Voilà, c'est pour de... situer un peu oui. le débat.
Le débat, voilà. Alors, peut-être, on peut comprendre, enfin, que là, à partir de là, il peut y avoir aussi des mécanismes qui se mettent en place, par exemple, non ? Aussi, dans
oui.
ces...
Alors, c'est-à-dire, ce processus, il va passer par un certain nombre d'étapes qui vont se mettre en place. Et la première étape, ça va être la question des origines. On en a
ah oui.
beaucoup parlé, c'est le mois dernier, on a
oui.
fait une émission sur les enfants adoptés, sur l'adoption. Et on avait vu qu'une des étapes de la vie du nourrisson consistait à faire le deuil de la fusion pour pouvoir grandir, donc se séparer de la mère et grandir. Et donc c'est ce qui permet la sortie de la symbiose, ce qui lui permet aussi de sortir de la toute-puissance et d'un fantasme d'auto-engendrement. C'est-à-dire, avant, il croit qu'il s'auto-crée.
Oui. Il est tout puissant, il s'auto-crée.
Il est tout
voilà.
puissant, il ne sait pas qu'il y a quelqu'un d'autre en dehors de lui.
En dehors de lui, oui, c'est ça. Tout est sur le même plan.
Tout le monde est fait une extension de lui. Et
il est le centre.
Sa mère.
Oui.
Et donc, ça veut dire que la première étape, finalement, c'est cette phase qu'on appelle le deuil des origines, qui est la sortie de la fusion. C'est la première étape pour reconnaître qu'il y a un autre, et notamment le premier hôte perçu par l'enfant, c'est la mère, même si le père est toujours en fond. Hein. Le père est présent, mais il... En quelque sorte, il fait presque partie de la mère.
D'accord. Hein.
Et donc ça, c'est la première étape où, quelque part, en renonçant ou en percevant la réalité de la mère, l'enfant va prendre conscience qu'il y a lui et qu'il y a une personne au-dessus de lui qui est sa mère et que c'est sa mère qui l'a créé.
Et à quel moment il va comprendre ça ?
Alors le deuil des origines, c'est très tôt. Après, on ne peut pas dire qu'il le comprend intellectuellement
non,
de
non,
toute
non.
façon.
Oui.
Simplement, il
perçoit que...
Voilà, il va sortir de cette toute-puissance et percevoir qu'il est séparé. Donc ça, c'est vers les 8 mois, mais on va dire entre 6 mois et 18 mois à peu près. Donc en se percevant séparé de sa mère, du coup, en même temps, il prend conscience qu'il ne s'est pas auto-créé et donc il va reconnaître après sa mère comme étant sa mère et en deuxième étape, son père comme étant son père.
Donc les choses se mettent en place.
Donc les choses se mettent en place déjà tout petit, finalement.
Oui, oui. Donc c'est important à ce moment-là que ça se mette bien en place. Hein,
voilà, c'est important que l'enfant puisse sortir de la fusion et de la toute-puissance. Et donc, en même temps, il va avoir cette conscience qu'il a été créé par ses parents, tout en prenant une part active à son développement, parce qu'il a aussi la vie qui est en lui, qui le pousse à grandir. Mais voilà, il y a les deux. Il y a aussi ses parents qui l'ont créé. Alors, on peut voir dans ce deuil des origines, en quelque sorte, la première étape de prise de conscience. Alors,
oui.
Toute relative,
oui, toute relative,
hein,
oui.
pas comme nous, on peut
oui,
l'élaborer,
oui.
mais de la filiation, où l'enfant va découvrir progressivement qu'il a été engendré.
Il a tout à découvrir, donc la première découverte,
voilà.
c'est par rapport à la relation
voilà.
de ses parents.
Par rapport à la relation à ses parents, et au début, essentiellement, la relation à la mère.
La mère, oui.
Et de là va découler après ce qu'on appelle le fantasme de la scène primitive et puis le fantasme de la naissance.
Alors c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est que ce fantasme...
L'enfant va imaginer, alors ce qu'on appelle la scène primitive, c'est la scène au cours de laquelle il a été conçu. Et donc, c'est un fantasme, c'est imaginaire. Il va imaginer le moment de sa conception.
Il est en cherche, hein, il cherche.
Oui. Alors, il peut l'imaginer parce que il a pu percevoir, entendre ses parents, avoir des relations sexuelles, même pas forcément sexuelles. De toute façon, il va l'imaginer, même s'il l'a pas perçu. Et de toute façon, il y a toute une partie imaginaire rendant cette scène fantasmatique, justement, parce que l'enfant, il ne peut pas imaginer réellement qu'est-ce que c'est que que faire l'amour et concevoir un enfant. Donc il va l'imaginer, souvent d'ailleurs comme quelque chose d'agressif. En tout cas, s'il a entendu les parents, parce que la cloison est étroite, parce que, je ne sais pas, en vacances, ils étaient dans la même tente, dans la même pièce. Souvent, il y a une dimension un peu agressive dans ce fantasme de la conception. Et puis, l'enfant va aussi se faire une représentation de la naissance. On en a déjà un peu parlé aussi pour les enfants adoptés, où eh bien, il y a un moment, le chou et la cigogne, ça leur convient plus. Et donc, ils vont imaginer qu'on fait l'enfant en s'embrassant, par exemple. C'est pour ça que beaucoup d'enfants sont troublés quand ils voient les parents s'embrasser, parce que, voilà, ça, c'est la conception. On fait un bébé en s'embrassant. Ils vont rigoler, enfin, ils vont... Oui. Et puis, ils vont imaginer la naissance par le nombril, ou par d'autres formes. Et donc, il y a tout un tas de fantasmes.
Toute une imagination.
Toute une imagination sur et leur propre conception et leur propre naissance. Mm-hmm. Et donc, sur comment on fait des enfants.
Oui.
Et de comment on fait des enfants, ben un jour, ils passeront à la réalité et à faire des enfants. Mais déjà là, ça donne une inscription.
C'est un processus aussi.
Ça fait partie du processus de parentification. Donc de commencer à imaginer comment ça se fait, comment l'enfant naît. Voilà.
Donc tout ça, c'est tout un travail qui... Et on voit dans ce travail de transformation constante, que ce soit chez l'enfant, bien sûr, parce que lui, on le voit grandir avec tout... Et tout ce que, mais chez l'adulte aussi, il y a tout ce constamment cette identité qui se transforme.
Qui se transforme. Alors plutôt par étapes, certaines étapes de vie, mais qui se transforme jusqu'à la vieillesse. On n'a pas la même identité à 20 ans, à 40, 50, et puis à 70 ans.
Bien sûr. Alors, donc là, c'est, on voit ces fantasmes hein, de la scène primitive et de la naissance. Et avec les origines, d'autres questions se posent aussi.
Oui, il se pose la question des générations précédentes et donc de la transmission transgénérationnelle. C'est-à-dire les processus par lesquels se transmettent ou se reproduisent d'une génération à l'autre, alors des joies, mais aussi des souffrances psychiques, des traumatismes, des conflits ou des dysfonctionnements. Et on retrouve cela dans des problématiques particulières. Alors on va retrouver par exemple dans les troubles psychosomatiques, des questions de transmission, dans les deuils pathologiques aussi, dans la répétition de conduite, toute situation traumatique, comme les ruptures familiales, les violences, les choses comme ça. Voilà, tout ça, ça se transmet d'une génération à l'autre, psychiquement.
Alors, oui.
En même temps, cette transmission, alors là, on parlait plutôt des aspects négatifs, mais cette transmission de génération en génération, elle transmet aussi une filiation.
Oui.
Et donc c'est quelque chose d'important de connaître ses racines, de s'inscrire dans une filiation pour devenir parent. Mm-hmm. Et même c'est indispensable d'être inscrit dans une filiation, même si elle est fantasmée. Enfin, même si on ne sait rien de sa propre filiation, par exemple. Mais qu'on imagine des choses, c'est important de s'inscrire dans une filiation.
Même si on l'imagine. Oui, même si on l'imagine.
Voilà. Parce qu'on se situe au niveau inconscient et non pas forcément au niveau conscient. Et donc, il faut que dans l'esprit de la personne, il y ait, en tout cas dans son inconscient, il y ait une filiation.
Mmh, oui. Alors, donc... Peut-être pouvez-vous nous parler du désir d'enfant.
Voilà, alors, on va en même temps, il faut le distinguer du projet d'enfant. Le désir d'enfant et le projet d'enfant, c'est deux choses différentes. Le désir d'enfant, c'est inconscient.
Oui.
Donc, ça fait partie du développement de ce processus qu'on est en train de décrire chez l'individu. Et du processus d'identification lié en particulier au complexe d'Œdipe. C'est-à-dire que le désir d'enfant, il démarre vraiment avec le complexe d'Œdipe. Alors que le projet d'enfant, ben, c'est quelque chose de conscient et qui nous renvoie à la vie adulte et à la vie de couple. C'est-à-dire un couple va avoir un projet d'enfant. Mais le désir d'enfant, il s'inscrit beaucoup plus tôt dans l'enfance.
Bien avant, oui.
Alors, pour Freud, le désir d'enfant trouvait sa source dans deux aspects. D'abord, dans le narcissisme, d'une part, et d'autre part, on vient de le dire, dans le complexe d'Œdipe. Alors, dans le narcissisme, parce que finalement, vouloir un enfant, enfin désirer un enfant, c'est, en tout cas, parce que au moment où ça démarre, c'est aimer ce que l'on est soi-même, ce qu'on a été soi-même, un petit bébé aussi, et ce qu'on voudrait être soi-même. Et donc, finalement... Quand on désire un enfant, il y a aussi une part de soi, ouais. De ce qu'on a été et de ce qu'on est, quand même.
On va continuer dans quelques instants, on va le reprendre justement tout de suite après 23h. 01 56 2 fois 44 00 pour nous rejoindre, la parentalité ou comment être parent. On se retrouve à 23h.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
Cette année encore, partez avec nous en Terre Sainte du 10 au 17 novembre avec le père Hervé Soubias, recteur de la basilique Notre-Dame des Victoires à Paris. Une semaine de pèlerinage sur les pas du Christ depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem. Un pèlerinage à prix coûtant pour la somme de 1339 euros. Les inscriptions sont à faire au 01 41 12 04 80 et sur le site ictusvoyage.com.
CanalSat, regardons mieux.
Je suis très exigeant. Pour les vacances, je veux vivre un maximum de sensations.
Chérie, tu viens ? On va ramasser des coquillages.
Bon, heureusement sur CanalSat, l'été va être extrême.
Cet été sur CanalSat, le mois des requins sur Discovery Channel, la Bundesliga sur Sport Plus, le dernier Batman de Dark Knight Rises sur OCS Max. Et jusqu'au 31 juillet, pendant le grand shopping, profitez d'une offre exceptionnelle. CanalSat à moins 40% pendant un an. Rendez-vous chez les distributeurs agréés. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement. Plus d'informations sur les offres CanalSat.
Concerts, marches, retraites, temps de prière, vous souhaitez annoncer un événement qui concerne votre paroisse ? Rendez-vous sur la page agenda de notre site internet. Une fois validée par le service web, votre annonce sera automatiquement en ligne. Elle pourra également être diffusée à l'antenne. Rendez-vous sur le www.radionotredame.com.
Mmh.
écoute dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Voilà, ce soir nous sommes en compagnie de Pascal Parinet, psychothérapeute et formateur en relations humaines. Et notre thème ce soir, c'est la parentalité ou comment être parent. Alors, on va reprendre là ce que l'on disait sur le désir d'enfant, mais il y a Jacques qui pose cette question, il n'a pas laissé de téléphone. Il dit, mon père était bègue, est-ce que c'est héréditaire ou bien est-ce que c'est parce que je me suis identifié à mon père, je l'idolâtrais. Et voilà, il ne veut pas passer parce qu'il a peur de déraper, dit-il.
Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Je peux pas vraiment répondre, en fait, parce que c'est un problème complexe. Alors, une transmission génétique, ça voudrait dire probablement lors d'un problème physiologique pour qui est le bégaiement. Donc, a priori, je pense pas, mais voilà, j'en sais rien. Alors, une identification à son père, puisqu'il dit qu'il l'idolâtrait, ben, c'est possible. Maintenant, le problème du bégaiement, ça mérite d'être approfondi. Il y a eu un film d'ailleurs assez récemment sur je suis en train de rechercher le roi, enfin récemment il y a quelques années, le roi d'Angleterre qui bégayait. Ça va nous revenir aux auditeurs, oui. Qui se fait accompagner, et puis pour le discours du roi, je crois, le titre.
Oui. Le discours du roi.
Voilà, sur le bégaiement. Mm-hmm. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a un livre de Nicole Fabre qui s'appelle « Des cailloux pleins la bouche ».«
Des cailloux pleins la bouche ».
Voilà, oui. qui parle d'une cure d'un enfant bègue,
oui.
Voilà, où elle analyse en quelque sorte les facteurs, alors pour cet enfant-là, hein, qu'elle avait suivi et donc soigné du bégaiement, où elle analyse les facteurs qui intervenaient dans le bégaiement. Voilà, mais je crois que chaque personne est unique, et donc on ne peut pas donner une réponse générale sur une problématique.
Voilà, donc Jacques, je ne sais pas si ça vous...
Voilà, mais si ça l'intéresse, il peut lire le livre de Nicole Fabre, « Des cailloux pleins la bouche ».
Oui. « Des cailloux pleins la bouche », Nicole Fabre. Donc, on parlait de désir d'enfant qui est différent du projet d'enfant. Hein. Et vous disiez que le désir d'enfant est inconscient. Hein, tandis que le projet, c'est quelque chose de conscient.
Voilà. Et donc, le désir d'enfant s'inscrit et dans le narcissisme, donc d'aimer ce qu'on a été soi-même, d'aimer ce que l'on est soi-même, ce qu'on voudrait être soi-même, ce qu'on a été, donc le petit bébé, ce qu'on est aujourd'hui, et puis ce qu'on voudrait être, être père. Et puis, dans le complexe d'Œdipe, parce que le désir d'enfant est en lien avec le renoncement au désir incestueux. Hein. Le complexe d'Œdipe, c'est de renoncer au désir incestueux. Et donc, en renonçant au désir incestueux, le garçon ou la fille va orienter son désir vers un autre partenaire que son parent. Et donc, ça s'enracine en renonçant à l'inceste. Eh bien, il y a quelque part le désir d'un autre partenaire et d'avoir un enfant avec un autre partenaire que le parent. Voilà. Après, c'est un peu différent homme-femme. Et pour le désir d'enfant féminin, donc chez la femme... En fait, pour Freud, ce qui était important dans la sexualité féminine, c'était l'envie de recevoir un enfant du père. Ça, c'était la vision de Freud. Il y a d'autres psychanalystes qui ont mis en valeur plutôt le rôle de l'identification à la mère, c'est-à-dire que la fille va s'identifier à la mère.
Oui.
Et donc, la féminité, c'est plutôt la résultante d'un mouvement d'identification à la mère. Et le désir d'enfant va se rapporter au fantasme que la mère contient un objet à l'intérieur d'elle, qu'elle contient des enfants à l'intérieur d'elle, et que l'enfant va vouloir se les approprier. Et donc, voilà, l'enfant va s'identifier à la mère avec le désir de s'approprier les enfants qu'elle porte en elle, et donc avoir, en passant, s'approprier le désir d'enfant, en fait. Mmh. Voilà, alors, après, il y a des psychanalystes qui ont essayé de différencier comment ça se présente. Alors, il y a le désir de procréation, donc d'être fécondé. Il y a le désir de grossesse, donc de porter un enfant, d'être enceinte. Il y a le désir d'enfantement, d'accoucher, de faire un enfant, de mettre au monde un enfant. Il y a le désir aussi d'avoir un petit bébé, de s'occuper d'un bébé. Et donc... en fait, d'une femme à l'autre, ce désir d'enfant, il va porter plutôt sur la conception, plutôt sur être enceinte, plutôt sur accoucher, plutôt sur se prendre soin d'un petit bébé.
Ah oui, il peut y avoir différentes...
Voilà. Alors, souvent, la personne
dit,
voilà, j'ai envie d'avoir un enfant... Mais quand on approfondit un peu désir, il va plutôt porter sur un des aspects de la conception aux premières semaines de la vie du nourrisson.
Mmh. Alors ça, c'est chez la femme. Et chez l'homme, ce désir d'enfant
Alors, là aussi, il va retrouver... sa source majeure dans le complexe d'Œdipe, c'est-à-dire donc dans l'attachement du garçon à sa mère, et par un renoncement à la mère, donc au désir incestueux, et un déplacement du choix d'objet sur une autre partenaire, donc, mais ça qui fera quand il sera adulte. Mais voilà, il y a le désir incestueux pour la mère et ça va se reporter sur une autre femme et donc avoir le désir d'un enfant avec elle.
Alors ça, c'est pour le... Voilà.
Donc ça, c'est l'aspect
masculin
par rapport à la mère. Mais il y a aussi une identification du garçon au père.
Hein? Alors là, oui,
les deux sont pas...
Oui, ça peut être les deux
en même temps,
oui.
Qui l'amène d'une certaine façon à imiter son père. Et le désir d'enfant va être en quelque sorte cette phase du complexe d'Œdipe. Avoir un enfant, c'est devenir comme son père.
Là, il y a identification aussi.
Là, il y a identification. Oui. Et en fait, le désir d'enfant va... participer de cette identification, c'est-à-dire que, fantasmatiquement, avoir un enfant,
c'est devenir
comme son père. Mm-hmm. Voilà. Parce que son père a un enfant.
Un enfant, oui.
Et donc, c'est ce qui va permettre une identification au père, d'achever cette identification au père.
Et ça fait grandir, ça aussi, dans le...
Ça fait partie du processus de croissance, de tout enfant. Et d'ailleurs, quand il y a le rejet du père, on va parler après des fonctions paternelles, maternelles, mais quand il y a un rejet des parents, Alors, et de la mère pour la fille et du père pour le garçon,
oui.
Ça peut en tout cas amener des difficultés pour concevoir un enfant si la personne ne veut pas devenir
comme
son père, ben, il ne voudra pas avoir d'enfant.
Bien sûr. Hein?
Et donc, ça peut créer des difficultés inconscientes la plupart du temps. Parfois, c'est conscient. Moi, je ne veux pas faire pareil qu'eux. Je préfère pas avoir d'enfant.
Oui, là, c'est conscient.
Là, c'est conscient, mais parfois, c'est inconscient. Et il y a un rejet d'un des parents et du coup, ben, l'impossibilité d'accéder au même statut.
Mais le résultat est le même, que ce soit conscient ou inconscient, non, pas tout à fait.
C'est pas tout à fait pareil, parce que si c'est conscient, la personne peut choisir...
Oui, une autre voie.
De dire,
oui.
Je peux quand même faire un enfant, mais je l'élèverai différemment.
Différemment, voilà, je ferai pas pareil, oui. Tandis qu'autrement...
Quand c'est inconscient, là, ça nécessite de mettre à jour ce rejet inconscient.
Alors ça, oui, ça peut être aussi rejet de la maternité, mais aussi de la féminité.
Alors,
ne pas ressembler à la femme.
Voilà, souvent les deux vont
ensemble de pair.
Parce qu'en s'identifiant à la mère, et donc c'est aussi intégrer l'aspect féminité. Et puis en même temps, donc ce désir d'enfant, il y a les deux aspects, il y a devenir femme et devenir mère.
Alors donc les fonctions paternelles et maternelles, justement je crois que le psychanalyste Jacques Lacan a apporté là une contribution majeure.
Oui. Notamment dans la fonction du père comme celui qui est le porteur de la loi.
Ça, c'était nouveau.
Alors, en tout cas, c'est exprimé d'une nouvelle façon Lacan. Il s'inscrit dans la filiation.
Ben oui.
Les psychanalystes, ils ont aussi des
filiations.
Dans la filiation de Freud, mais il amène son éclairage à lui.
Oui. Hein.
Et ça, c'est un des aspects. Et ce qui dit d'important, c'est que, en fait, ça dépend de la mère que l'enfant ait accès à l'Œdipe.
Ça dépend de la mère.
Alors ça, c'est...
On
va expliquer pourquoi. Ça dépend essentiellement d'une parole de la mère, donc, qui signifie son désir pour un homme qui est le père de l'enfant, et donc qui présente à l'enfant une instance tierce, donc qui présente à l'enfant le père, et ce qui va permettre la séparation entre l'enfant et elle.
Alors là, c'est la mère qui l'amène.
Voilà. Ce qui veut dire que pour que l'enfant puisse arriver à l'Œdipe, il faut que dans l'esprit de la mère, le père existe.
Ah oui.
Hein? Si la mère rejette en quelque sorte son mari, mais souvent ça veut dire parce qu'elle a rejeté son père, à ce moment-là, elle ne va pas présenter à l'enfant, elle ne va pas parler du père à l'enfant, elle va pas, elle va garder l'enfant pour elle toute seule, en quelque sorte, sans introduire à l'enfant la notion qu'il y a une troisième personne qui est le père, et cette troisième personne, c'est justement celle qui permet de séparer la mère et l'enfant de la fusion. Donc, il faut qu'il y ait cette pensée du père et de l'homme, du mari,
dans
l'esprit
de
la femme. Sinon, alors, il y a ce que Lacan appelait la négation du nom du père. Alors, c'est un père symbolique. Hein, c'est pas... c'est pas forcément le père réel, c'est un père symbolique. Mm-hmm. Faut qu'il y ait dans l'esprit de la mère un père symbolique. Et cette référence au père symbolique, c'est pas seulement, souvent on parle de l'absence des pères, de la oui. présence des pères comme une difficulté. Mais
c'est pas du même ordre.
C'est pas du même ordre. Là, c'est dans le discours de la mère. C'est-à-dire, il faut que le père soit présent dans le discours de la mère à l'enfant. Mmh. Hein. Autrement dit, qu'elle fasse référence
au père.
Quand elle parle à l'enfant, oui. qu'elle lui parle de son père, que dans son esprit le père soit important, et mm-hmm. voilà. Voilà, ça c'était c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est celui du père comme imago, c'est-à-dire comme une image psychique. Donc ça va être le père que l'enfant va se construire d'une façon imaginaire dans son psychique, dans son psychisme. Et donc le père existe, première étape, il faut que le père existe dans l'esprit de la mère.
Oui.
Ce père-là, il va devenir imaginaire dans l'esprit de l'enfant.
Ah oui.
Et l'enfant va se créer une image d'un père imaginaire. Qu'est un père idéal, tout puissant,
oui.
et sa toute puissance, en quelque sorte, c'est le transfert de la toute puissance qui était dans la mère,
ah oui, qu'il au moment projette de la dans fusion, le père.
Qui va transférer dans ah oui. le père, et donc dans un père idéal.
Qui est tout puissant.
Voilà, qui est tout puissant.
Mm-hmm.
Et puis la troisième étape, c'est que la mère, dans son discours, elle parle d'un père qui est à l'extérieur d'elle, et d'une certaine façon, qui est en position entre elle et l'enfant, et qui, en parlant du père à l'enfant, elle donne une place, elle crée une place pour le père à l'extérieur d'elle, et que le père va venir occuper.
Mmh.
Alors, ils veulent l'occuper à sa façon à lui, hein, chacun à sa propre façon d'être père. Mais voilà, c'est la mère qui désigne en quelque sorte la place.
Oui.
Il y a la place pour le père, et le père, là, pour le coup, c'est le père réel qui vient occuper et prendre cette place.
Donc c'est important que la mère laisse la place au père,
oui.
de la place.
Voilà, qu'elle lui laisse une place.
Mm-hmm. Après, il l'occupera comme selon ce qu'il est.
Selon ses propres qualités, mm-hmm. sa personnalité, mais il faut que la mère ait déjà le père dans son esprit, que ce père se transforme en père idéal dans l'esprit de l'enfant, et qu'elle laisse une place au père mm-hmm. à côté d'elle. En quelque sorte.
Alors ça c'est ça se fait
naturellement. Oui. Naturellement, souvent les mères disent à leur enfant papa il va bientôt rentrer du travail tu as vu c'est papa ou elle va lui dire oui. quand l'enfant dit maman elle va lui dire apprendre à dire papa donc tout
elle
dans le discours désigner. Dans oui. son discours elle présente même quand il est pas là ou même par anticipation quand elle dit papa va arriver
mm-hmm.
Il est pas encore là. Mais dans son discours, elle présente le père à l'enfant et donc elle donne une place au père.
Mmh. Oui, ça se fait tout naturellement, mais sans il peut arriver que ça ne se fasse pas bien.
Alors, ça veut dire qu'il y a deux choses importantes. C'est que déjà en se positionnant comme le mari de sa femme, le père, il va en quelque sorte priver l'enfant. C'est ce qu'on appelle la castration, mais la castration, c'est pas tellement, enfin, c'est pas uniquement ce qu'on en imagine. Il va priver l'enfant d'être en quelque sorte absolument indispensable à la mère. Mm-hmm. Hein? Donc d'être tout puissant et d'être le porteur de la puissance de la mère. Hein? Puisque elle s'est transférée vers le père.
Alors on va revenir à cela dans quelques instants. Et voilà, on se retrouve dans quelques instants.
Le journal des JMJ, Élodie Chapelle.
Paris-Rio, plus de 5000 Français en route pour les 28e journées mondiales de la jeunesse. Des derniers préparatifs à l'arrivée des jeunes dans les diocèses brésiliens. Radio Notre-Dame leur donne la parole au quotidien, du lundi au vendredi. Le journal des JMJ 2013, le rendez-vous du mois de juillet sur Radio Notre-Dame.
Le journal des JMJ avec Élodie Chapelle, du lundi au vendredi à 8h45 et 18h15 sur Radio Notre-Dame.
Canal 7, regardons mieux.
Je suis très exigeant. Pour les vacances, je veux vivre un maximum de sensations.
Chérie, tu viens ? On va ramasser des coquillages.
Bon, heureusement sur CanalSat, l'été va être extrême.
Cet été sur CanalSat, le mois des requins sur Discovery Channel, la Bundesliga sur Sport Plus, le dernier Batman de Dark Knight Rises sur OCS Max, et jusqu'au 31 juillet pendant le grand shopping, profitez d'une offre exceptionnelle. CanalSat à moins 40% pendant un an. Appelez le 3910, 23 centimes la minute, offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement. Plus d'informations sur les offres canal.fr.
Cet été, Radio Notre-Dame vous propose de suivre les offices en direct. La messe pour les malades, le jeudi à 14h45, célébrée à Notre-Dame des Victoires. Et la messe du dimanche, en direct de Notre-Dame de Paris, à 18h30.
Bonjour, c'est Sophie de l'équipe du téléphone du dimanche. Quelles que soient les raisons qui y mènent, la prison est toujours une coupure d'avec ce qu'on aime. Tous les dimanches, depuis plus de 25 ans, Radio Notre-Dame accompagne les personnes détenues en permettant à leurs familles et à leurs proches de leur transmettre un message par la radio. Vous aussi, participez au téléphone du dimanche pour soutenir un de vos proches détenus. Vous lui offrez, par votre voix, les encouragements et l'espérance qui lui ouvrent un avenir. Votre message est un lien vital et précieux. Le téléphone du dimanche, une voix de l'extérieur pour ceux qui sont à l'intérieur. Retrouvez-nous chaque dimanche de 17h à 18h.
Voilà, donc ce soir, eh bien, avec Pascal Parinet, nous apprenons eh bien, comment être parent, la parentalité ou comment être parent. Alors on voit que c'est tout un processus hein, de
voilà,
qui maturation.
Se poursuit oui. Inconsciemment,
oui,
hein,
oui.
En tout cas, un petit peu consciemment, ben, là on est en plein dans le DIB, donc l'enfant a un peu conscience, mais c'est refoulé ensuite, donc on en a perdu la conscience en quelque sorte.
Mm-hmm. Oui, parce que le DIB est refoulé.
Oui, oui.
Chez tout enfant.
Oui. Chez tout enfant, ce qu'on. Alors, il peut rester des prix de ce qui s'est passé avant l'enfant. On peut avoir quelques flashs comme ça, par exemple, de la maternelle. Mais on n'a pas une mémoire...
Oui, oui.
Enfin, on a la mémoire, mais la mémoire inconsciente. Mm-hmm. Mais on ne se souvient pas voilà, à 3 ans j'ai fait ça, à 4 ans j'ai fait mm-hmm. ça...
Oui, parce que c'était inconscient. Enfin.
Voilà, tout ça, on l'a refoulé, donc c'est toujours présent en nous, mais on n'a pas accès à cette mémoire-là, mm-hmm. sauf par un travail sur soi où les choses vont remonter progressivement. Mais sinon, on n'y a pas accès.
Par un travail de psychanalyse,
voilà.
Essentiellement, oui.
Ouais.
Alors, donc,
voilà, donc
vous voyez...
on disait que le père, en prenant sa place près de la mère, finalement, il signifie à l'enfant que l'enfant n'est pas absolument indispensable à la mère, qu'il y a le père qui est là.
Mmh.
Hein? Et donc, ça retire cette illusion à l'enfant qu'il est tout pour la mère. Et que, ouais. Donc, ça lui retire quelque chose d'une toute-puissance aussi. à l'enfant. Il n'est pas tout pour la mère, il y a le père qui est là et la mère regarde aussi le père.
D'où voilà. Les dangers quand il y a pas cette, voilà. Quand il y a des difficultés dans le couple, par exemple.
Voilà. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, c'est que ça nécessite aussi que le père ne s'identifie pas à cette image idéale qu'a l'enfant de lui. C'est-à-dire qu'il ne se prenne pas pour un père tout-puissant. Mmh. Hein? Et donc, qu'il reconnaisse, et qu'il reconnaisse aussi devant l'enfant, ben, que lui aussi, il a des manques, qu'il n'est pas parfait, qu'il a la finitude. Et donc...
Ça démystifie
l'idéal qu'avait l'enfant, et ça redonne de l'humanité, de la réalité au père. Mmh. Hein. Si le père est dans la toute-puissance, l'enfant risque de garder cet idéal de toute-puissance et de ne pas le réajuster. Mmh. Alors, ce qui est important, c'est voilà, que chez Lacan, c'est la place qu'il donne au père.
Voilà, parce qu'il est porteur de la loi.
Hein? Il est porteur de la loi, il est porteur de la séparation entre la mère et l'enfant, et donc de l'accession à l'Œdipe par cette séparation. Et puis, d'une certaine façon, dans ce qu'ils disent, c'est il n'y a pas de mère sans père. Et du coup, ça entraîne une vision de la fonction maternelle. Hein? Chez Freud, mais dans les autres visions psychanalytiques, il y a d'abord la fonction maternelle et après le père qui arrive. Lacan, quelque part, il met le père à une place importante et il dit ben, il n'y a pas la mère sans un père. D'ailleurs, ce qui est un peu vrai.
Ben c'est sûr, oui.
Il faut bien qu'il y ait un homme qui ait fécondé.
Oui, c'est une réalité, mais là, il en fait prendre conscience, voilà, vraiment.
Et il insiste dessus.
Oui.
Et du coup, ça transforme la vision maternelle. Alors, il y a beaucoup de psychanalystes qui ont insisté sur cette fonction maternelle. Et notamment que la mère, en manipulant l'enfant, alors en lui donnant des soins, en le caressant, en lui parlant aussi, à travers la parole, c'est elle qui va donner un sentiment continu d'exister à l'enfant. C'est-à-dire qu'à travers tous les soins, à travers toutes les paroles de la mère, l'enfant va avoir un sentiment continu d'exister.
Oui.
Hein? Alors, mais ça, c'est possible dans la mesure où elle assure ses fonctions de maternage, donc, et de portage aussi. Pour Winnicott, il y a deux fonctions. Il y a le maternage et la façon dont la mère prend soin de l'enfant, donc tous les soins. Et le portage, c'est la façon dont elle le porte, à la fois physiquement, mais surtout psychiquement.
Ah oui, hein? Oui. C'est important l'un et l'autre, voilà. Le physique mais aussi le psychologique.
Psychologique, oui. Et ben, par exemple, un enfant qui serait mal tenu, ben, il partira en arrière.
Il a besoin de porter sa colonne vertébrale. Voilà. Oui.
Et du coup, il aurait une insécurité.
Ben oui, voilà. Psychique.
Mais s'il est mal tenu psychologiquement aussi, ben, il va aussi avoir une insécurité.
Mm-hmm.
Hein? Il a vraiment fait le parallèle entre ce qui est de tenir physiquement et tenir psychiquement. Donc, il faut que la mère assure cette fonction de maternage, de portage. Et puis aussi, il faut qu'elle ne soit pas tout pour l'enfant et donc se distingue de la mère imaginaire, qui, elle, est toute puissante. Donc, il faut que la mère accepte qu'elle n'est pas tout pour l'enfant. D'abord, qu'elle n'est pas seule, qu'il y a le père. Donc, le père est là aussi pour l'aider. Mm-hmm. Donc, c'est ce qui permet aussi cette séparation de la symbiose. Hein. Mm-hmm. Et puis, l'autre aspect de la fonction maternelle est de témoigner à l'enfant qu'elle agit pas seulement pour son propre compte, mais aussi pour le compte du père.
Oui.
C'est-à-dire dans un rapport avec le père, avec la loi, mm-hmm. hein, puisque pour Lacan, oui. le père, c'est le représentant de la loi,
oui.
qui lui interdit de posséder l'enfant pour elle-même, pour mm-hmm. elle toute seule.
Hein.
Oui. Et donc, voilà, faut que ça... Mais les mères en ont conscience naturellement.
Oui, oui.
Voilà, elles savent que c'est... Parfois, c'est difficile pour les mères de lâcher leur enfant.
Et, parce qu'elles veulent le garder. Oui,
oui.
Et donc, le père doit tenir son rôle, là, de...
Oui, mais...
Oui, et pour lui, c'est difficile, ça va être difficile
alors,
aussi.
Il faut que le père... quelque part,
prenne sa place
d'époux auprès de la mère et oui. le père de l'enfant.
Mm-hmm.
Mais aussi, il faut que la mère lui laisse une place.
Ah oui.
Il y a vraiment les deux, il faut vraiment que les deux s'articulent ensemble.
Si la mère laisse pas de place
pour le père pourra pas prendre cette place.
Mm-hmm.
Et voilà, si la mère est trop fusionnelle avec son enfant, qu'elle le couve trop,
oui, oui.
Ben finalement, le père ne peut pas s'en approcher de l'enfant et ne peut pas séparer la mère et l'enfant.
Mmh, mmh. Oui, on voit l'importance hein, de tout ce qui peut se oui, jouer. Là.
Ça
ouais.
se joue vraiment...
Donc l'importance de la mère, là, c'est elle qui donne la possibilité ou pas au père de prendre sa place et donc...
Alors, c'est la mère qui donne la possibilité au père de prendre sa place, mais il faut aussi que le père la prenne.
Ah oui, aussi.
Donc, c'est
ça se joue, oui,
ça se joue vraiment dans les deux.
Donc, c'est dans la relation, quelque part.
Ouais.
Hein. Alors, et donc, puis, oui, il y a encore un aspect...
Voilà, le troisième aspect, c'est que en donnant la place au père... eh bien, le discours maternel présente à l'enfant non seulement le couple parental, voilà,
oui, oui.
Moi je suis ta mère et il y a ton père aussi, donc
mm-hmm.
il y a un couple, mm-hmm. mais aussi d'une certaine façon commence à introduire l'espoir ou qu'un jour l'enfant va lui aussi devenir père. Alors si c'est
oui.
un garçon ou mère, si
oui.
c'est une fille, à son tour.
Oui,
c'est-à-dire, à la fois, en donnant la place au père, elle se présente en couple à
mm-hmm.
l'enfant. Elle n'est plus toute seule avec l'enfant. Il y a un couple en face.
Oui.
Mais ce qui laisse entrevoir à l'enfant que lui aussi, un jour, il y aura un couple pour lui.
Et oui. Hein? Sinon, il restera toujours attaché à sa mère.
Sinon, il reste attaché à sa mère et voilà, à 35 ans, 40 ans, il vivra chez sa mère.
Et il ne pourra pas devenir père. Il aura des difficultés.
Voilà, il aura des difficultés à quitter sa mère, à trouver un conjoint et du coup à devenir père.
Mm-hmm.
Hein? Ou de la même façon pour la fille.
Alors, et au moment de l'adolescence, que se passe-t-il par rapport à ces différentes étapes, alors ?
Ah ben, à l'adolescence, on a dit tout à l'heure, le jeune repasse par toutes
oui.
ces étapes de l'enfance.
C'est ça.
Donc, alors, d'une façon un peu différente, mais tout se rejoue, la fusion va se rejouer, la diffusion,
ah,
oui. c'est pour ça que les enfants repoussent la mère à un moment.
Mm-hmm.
L'Œdipe se rejoue, donc les désirs incestueux, mais avec une mise à distance, pour le coup. Les garçons, par exemple, ne supportent plus que leur mère les embrasse quand
ouais.
ils sont adolescents.
Mm-hmm.
Voilà, le rapport au père aussi, il y a eu à la fois un affrontement vis-à-vis du père et de la loi du père, mais en même temps une identification au père, enfin tout ça va se rejouer. depuis la fusion jusqu'à la résolution complète de l'Œdipe et l'accès à la vie adulte, finalement. Mmh.
Donc c'est important que ces étapes-là se rejouent bien.
Oui, c'est important que ça se rejoue bien. Alors, déjà, si ça s'est pas tout à fait bien joué dans l'enfance, ça peut se jouer bien à l'adolescence et régler ce qui pourrait être des légers problèmes ou des problèmes. Donc, l'adolescence, c'est vraiment le moment où ça se finalise. Si ça se passe mal à l'adolescence, après... pour régler les difficultés qui seraient présentées, ça passera par une thérapie. Mais ça se fera plus spontanément.
Tandis qu'à l'adolescence, voilà, ça peut encore...
À l'adolescence, ça peut se régler spontanément. Voilà, s'il y a des choses qui étaient un peu boiteuses, à l'adolescence, si ça se passe bien, ben, ça va se régler et puis il restera pas de traces.
Voilà. Sinon, il faut absolument, là, il y aura une thérapie nécessaire.
Voilà, si ça se passe mal à l'adolescence, dans l'enfance et à l'adolescence, bah, pour le régler, il faudra une thérapie.
Alors,
Ça veut dire aussi qu'à l'adolescence, il y a besoin de rôles parentaux bien dissociés, des fonctions mère, des fonctions père, pour que ça soit bien clair.
Pour
l'adolescent. Et pour qu'ils puissent s'identifier aussi plus facilement, plus les fonctions. Aujourd'hui, les parents ont un peu peur d'être parents. Souvent, on se rend compte, même avec des petits d'ailleurs, ou avec encore plus avec les adolescents, ils ont presque peur de blesser leur enfant ou d'affronter leur enfant, enfin de s'affirmer en tant que parent. Faut pas perturber l'enfant.
Mais c'est pas forcément bon, ça.
Mais c'est pas bon.
C'est pas bon.
L'enfant a besoin
d'une affirmation juste.
De figure marquée, marquée, mais dans le bon sens du terme. Il a besoin.
Le père, la mère.
D'une mère, et la mère, c'est pas une copine. Il a besoin d'un père qui est une autorité, parce qu'il va avoir besoin de se confronter à cette autorité pour pouvoir devenir adulte. Et s'il ne se confronte pas à l'adulte, l'ado a des difficultés à devenir adulte, parce que c'est à travers la confrontation qu'il va pouvoir s'identifier à qu'est-ce que c'est être... alors, si c'est un garçon, qu'est-ce que c'est être un homme? Et s'il ne trouve pas un homme en face, ben, comment... Alors, il va aller le chercher, il va provoquer.
Ah oui, c'est comme les provocations
déjà enfants et puis ados vont provoquer les parents parce que ils vont chercher les limites, ils ont besoin de choses claires.
Oui.
Ils n'aiment pas ce qu'un ado, plus c'est confus et moins c'est clair et plus ça l'insécurise. On oublie souvent que l'adolescence, c'est une période angoissante.
Mais oui.
Mais les ados, ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de repères et les repères clairs, ça les sécurise. Alors, ils vont les contester, ils vont être pas contents, de temps en temps, ils vont claquer la porte de leur chambre, mais en même temps, ça leur donne une sécurité intérieure, sinon ils ne savent pas trop qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, et du coup, ça les angoisse.
Ouais.
Donc, il y a vraiment besoin de figures parentales claires et bien positionnées pour l'adolescence.
Alors, donc là, c'est... l'adolescent a besoin de ça. Et alors, être parent aussi, alors... On va reprendre Joël, alors qui... tourne, et donc là c'est le moment d'écouter, je vais vous dire quoi, c'est Isabelle Aubray, puisqu'on parle des enfants, et bien elle le chante.
C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin.
Radio Notre-Dame.
Il court dans les rues, il danse dans les villes avec des cris aigus et des rires d'oiseaux. Il morde dans les fruits avec des dents fragiles. Il rêve dans la nuit de fleurs et de chevaux. Les enfants, ils ont les genoux tendres aux pierres des chemins et des petites mains et des lèvres si douces et des paupières bleues. Ils ont de gros chagrins quand tout ne va pas bien, que la vie n'est pas douce, les enfants. Ils grandissent un jour, ils bâtissent des villes, ils se disent monsieur, ils ont l'air importants, mais ils meurent d'amour et quand les mandolines leur déchirent le cœur, ils pleurent comme autant des enfants, des enfants. Ils apprennent l'argent, ils partent pour la guerre, ils s'en vont dans le ciel, ils inventent demain, mais comme les enfants, c'est pour une bergère qu'ils commencent à matin à bâtir leur maison. Les enfants, ils marchent dans la vie, ils ont des joies, des peines qu'ils partagent tard pour mieux passer le temps. Ils ont la même voix pour se dire je t'aime, ils ont le même sang quand ils ont un enfant. Les enfants, les enfants, ils prennent le chemin que prennent tous les grands, loin des jardins en fleurs, des herbes et des bêtes. Ils s'en vont pour l'hiver, ils quittent le printemps, mais quand ils sont dans l'ombre, ils voient dans la lumière leurs enfants.
Les enfants, c'était Isabelle Aubray. Et bien voilà, justement, on va parler d'avoir un enfant, donc être parent. Être parent, ce n'est pas faire un enfant, simplement.
Non, il ne faut pas confondre le fait d'être parent avec le processus biologique de la fécondation et de mettre au monde un enfant.
C'est plus complexe.
C'est plus compliqué que ça. On pourrait dire faire un enfant, c'est devenir biologiquement parent.
Oui.
Mais être parent, réellement parent, c'est d'abord dans sa tête qu'on est parent.
Mm-hmm. Oui, c'est d'abord dans sa tête.
Voilà. Et oui, et on le voit avec les personnes qui ont des difficultés à avoir un enfant. Souvent, c'est parce qu'elles ne peuvent pas s'imaginer devenir parent ou être parent. Alors, c'est pas toujours conscient, mais voilà, il y a cette appréhension de devenir parent qui ou la peur, ou c'est inimaginable pour eux d'être parents. Mm-hmm. Et du coup, ils ont des difficultés à avoir des enfants. On le voit aussi chez les parents adoptants, par exemple. Ils n'ont pas conçu eux-mêmes leur enfant et ils peuvent être complètement parents.
Eh oui, bien sûr.
Et donc, on peut avoir conçu un enfant et ne pas se sentir parent.
Mm-hmm. Mais par contre...
Et on peut ne pas l'avoir conçu et se sentir complètement parent.
Mm-hmm.
Donc, c'est bien un processus psychique qui se passe d'abord dans le psychisme et aussi, mais d'une façon parallèle au niveau physiologique, biologique.
Mm-hmm.
Et puis, on le voit dans certains phénomènes, par exemple dans les rites de couvade, où les hommes vivent la grossesse en parallèle avec la femme, et parfois même les douleurs de l'enfantement. Et du coup, là, il y a une espèce d'identification de l'homme à la mer.
Oui.
Où il va vivre les douleurs de l'accouchement pendant que son épouse est en train de mettre au monde un enfant.
Et qu'est-ce que ça signifie, ça?
Ben ça veut dire qu'il est parent.
Oui.
Là, c'est le mari, il est parent dans sa tête, mais en même temps, il va s'identifier
sur le plan à
l'aspect maternel.
Oui, d'accord. Ouais.
Mais c'est vraiment, ça montre combien ça peut être complètement dans la tête, parce que là, il vit des...
c'est psychosomatique.
Psychosomatique.
Alors, il s'agit de devenir parent, c'est-à-dire...
Voilà, devenir parent, c'est le processus qui se déroule donc dans la personne qui devient père ou qui devient mère. Alors, du côté de la mère...
Que se passe-t-il?
Pour certains, la maternité... Ça constitue une transformation qui ressemble beaucoup à l'adolescence, c'est-à-dire que devenir mère, c'est une crise d'identité comparable à ce que vit un adolescent quand son corps se transforme, enfin quand son corps, son psychisme se transforme. Et on peut faire un parallèle entre les deux, c'est-à-dire que en tout cas au premier enfant, parce qu'après, c'est plus la même chose. Mais il y a une véritable crise d'identité pour la mère qui est comparable à la crise d'identité d'un adolescent. Et puis, Winnicott, lui, a parlé de la préoccupation maternelle primaire. Et il disait, donc ça c'est l'état psychique dans lequel se trouve la mère et pendant la grossesse et les quelques semaines qui suivent l'accouchement. Et il disait que la mère se trouve dans un état qui est anormal, mais anormal si elle n'était pas enceinte, mais qui est normal parce qu'elle est enceinte.
Et oui.
Mais si ça lui arrivait, si elle avait le même état sans être enceinte, on dirait qu'elle est malade.
D'accord. Mais oui, ça se comprend quelque part.
Et donc cet état, ça se caractérise par un repli sur elle-même, mais qui est nécessaire à la mère pour accueillir psychiquement le bébé en elle.
Oui, elle est obligée, c'est ça.
Elle est obligée, quelque part, de se retirer un peu du monde, des activités extérieures. Pour pouvoir vraiment faire place à cet enfant en elle. C'est ce retrait aussi qui permet un accordage optimal entre le nourrisson et les soins maternels. On voit les mères, par exemple, la nuit, le moindre bruissement. Autrement, elles n'entendent pas d'ailleurs les autres bruits.
Mais celui-là, c'est là.
Mais le bébé, s'il remue un tout petit peu dans son berceau, la mère va l'entendre. S'il y a un orage, elle continuera à dormir. Donc, on voit, il y a vraiment, sauf si elle s'inquiète pour le bébé ait peur de l'orage, mais on voit, il y a vraiment un accordage entre le bébé et le nourrisson. Et ça, c'est un état anormal.
Oui.
Une mère, c'est normal parce que c'est un nourrisson, mais...
Et si ça continue après, c'est normal.
Si ça continue après, que la mère se réveille au moindre bruit de son adolescent, par exemple, on dira, mais qu'est-ce qu'elle a? Ça va pas. Voilà. Donc c'est bien vraiment un état spécial qui permet ça.
Oui. Pour les toutes premières...
Pour les premières semaines ou les premiers mois, ça peut durer un peu.
Et du côté du père, alors?
Alors, ben, chez le père, il y a d'autres signes qui montrent que le père passe aussi par une crise d'identité. Et alors, toujours Winnicott, par exemple, il a remarqué que à la fin de la grossesse, il y a un changement qui se produit chez le père et qui l'amène à devenir beaucoup plus protecteur de la mère et
de l'enfant.
Et de l'enfant. Mmh. Alors, quand l'enfant n'est pas encore né, il devient très protecteur pour la mère, de façon à ce qu'elle puisse se consacrer entièrement au bébé.
Ah oui.
Et donc, du coup, on le voit d'ailleurs, les pères sont petits soins pour leur femme.
En principe.
Ils sont... Mais c'est leur crise d'identité de devenir père qui fait ça. Ils deviennent protecteurs pour permettre à la mère de bien s'occuper de l'enfant. Et puis alors, un peu plus tard, quand l'enfant va sortir de la fusion avec le père, il va devenir une figure indépendante. C'est-à-dire que tout au début, le père n'est pas vraiment une figure. Il a un rôle de protection, mais pour l'enfant, il reste conjoint à la mère. Et après, il va devenir une figure spécifique, c'est ce qu'on disait quand
la mère laisse la place et que le père prend la place. D'accord.
Voilà. Et du coup, il y a eu toute une époque où on insistait beaucoup sur la relation mère-enfant. Mais maintenant, on parle aussi du père.
Oui.
Et c'est une bonne chose.
Ben oui, parce qu'il est là.
Et on parle plutôt de la triade père-mère-nourrisson, en fait. C'est-à-dire pour bien montrer qu'il y a trois personnes, il y a le père, il y a la mère, il y a le nourrisson, et qu'il y a besoin des trois pour que ça fonctionne bien.
Et le père tient différentes fonctions.
Voilà, le père a une autre fonction, il a sa fonction paternelle et la mère sa fonction maternelle. Et le père, alors, d'abord, c'est celui qui va permettre la distinction de la mère par l'enfant, du fait de sa différence. Hein, on disait tout à l'heure, c'est le père qui vient séparer la mère de l'enfant, mais qui permet aussi que l'enfant et la mère se distinguent, c'est-à-dire qu'ils perçoivent qu'il y a une différence. Il permet également la sublimation de l'agressivité au travers des jeux physiques. Et on voit les pères, naturellement, ont des jeux un peu plus masculins. Et donc, ça va permettre à l'enfant d'apprendre à gérer son agressivité, à la sublimer, à la mettre dans le jeu et non pas dans la violence et dans la vie. Et puis, aussi, il va faciliter les contacts avec les personnes étrangères à la famille, parce que finalement, c'est la première personne extérieure à la symbiose. Donc, il y a la mère et l'enfant en symbiose, et la première personne qui arrive après, c'est le père. Et à partir du père, ça va être toutes les autres.
Donc, il va ouvrir la porte.
Il ouvre la porte sociale.
Tout ce qui est étranger. Là, on arrive à la fin. Alors, peut-être que vous nous avez dit que pour être parent, cela passait par une crise d'identité comparable à celle de l'adolescence. Qu'est-ce que ça signifie en quelques mots, puisqu'on va finir par là.
D'abord, ça veut dire de s'inscrire dans une filiation, donc dans une histoire familiale, de ne pas être pris dans des intrications familiales qui empêchent de devenir parent. Des mauvaises identifications à la tante célibataire, à l'oncle célibataire. Donc, de ne pas être pris dans un système familial qui empêche d'accéder à ça. D'avoir pu élaborer certains traumatismes, parfois, liés à la parentalité. D'avoir renoncé aux parents idéaux. Hein, on a parlé de la mère et du père idéal et accepter ses parents réels. Mm-hmm. Et il faut que les deux soient acceptés. C'est important que un adolescent puisse accepter sa mère et son père. Mm-hmm. Et enfin, d'avoir acquis son identité d'adulte. Sinon, la personne aura du mal.
Mm-hmm. Voilà, donc, on arrive à la fin, là.
Alors, peut-être on peut dire en miroir qu'on voit que quand quelqu'un devient parent, il est renvoyé à sa propre enfance et il va se remémorer ses souvenirs d'enfance, rêver de sa petite enfance, de ses parents. Mmh. Et puis pour d'autres, il va y avoir des questionnements sur sa capacité à être parent, les personnes vont être inquiets. Et souvent, ils vont porter un regard sur leurs parents, soit comme modèle, soit comme contre-modèle. Il ne faut pas faire comme eux.
La plupart du temps, ça se passe bien, mais quand ça ne va pas bien, mais il faut peut-être se faire aider.
Oui, je pense.
Un grand merci, Pascal Parinet, parce qu'on arrive juste à la fin, là. Merci à tous, nos auditeurs, mais c'est également à Marie-Françoise au standard, Guillaume à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Demain, à 22h, écoute dans la nuit, notre invité sera le père André-Marie, bénédictin potier, poète. Le thème de la soirée, du moi au nous. Voilà, je vous souhaite une très très bonne nuit à tous. À demain.
Les vacances, c'est aussi sur Radio Notre-Dame.
En ce jour qui s'achève, nous nous tournons vers la Vierge Marie et nous la prions avec les moniales bénédictines de l'abbaye Saint-Michel de Kergonan.